J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grosstête et Rémi Pascal sur Radio B.
Bonjour Thomas.
Bonjour Rémi.
Et bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs. Nous vous souhaitons une dernière fois bienvenue dans notre chronique Plat de résilience, chronique consacrée à la compréhension des enjeux agricoles et alimentaires.
Comment ça, la dernière ?
Bah Thomas, on diffuse aujourd'hui le dernier épisode de Plat de résilience. Enfin, c'est évident, tu... T'as pas reçu mon mail ?
Ben non.
Comment ça ? Mais... Bah, tu as quand même compris qu'on enregistrait un épisode spécial aujourd'hui, c'est une émission carrément. Ça va durer un peu plus que 15 minutes.
Ouais, ça j'avais compris, mais j'imaginais pas qu'on allait s'arrêter après ça.
Bah, bon, bah écoute, j'imagine que les auditrices et les auditeurs doivent être dans le même état que toi.
Bah, un peu désemparés, j'imagine.
Mais j'ai une bonne nouvelle, Thomas, pour nous remercier d'avoir animé cette chronique mensuelle. Des dizaines d'auditrices et d'auditeurs nous ont envoyé d'énormes quantités de courriers, de colis,
Rémi,
de mails, de fax, enfin de pigeons voyageurs, quoi.
Rémi,
ouais,
si
ouais.
C'est la dernière émission, tu peux le dire à tout le monde.
Non, j'ai pas envie.
Si, tu peux leur dire, Rémi.
Non, je veux pas.
Bon, on n'a jamais reçu de pigeons voyageurs.
Bon, ok. Les pigeons voyageurs, c'est vrai.
Bon,
c'est...
on n'a pas reçu de courrier, on n'a pas reçu de colis non plus. Hein.
Bon, bah écoute, on dira que c'est mon côté marseillais, j'ai peut-être un peu abusé.
Bon, par contre, vous avez été nombreux à nous témoigner de vive voix votre intérêt pour cette chronique et nous vous en remercions.
Bon, trêve de plaisanterie, Thomas, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Pour finir en beauté, on va vous parler de comment améliorer l'attractivité des métiers agricoles, de la souveraineté européenne et de l'accessibilité alimentaire. On se demandera ensuite comment et dans quel ordre mettre en place toutes les propositions que nous aurons évoquées. On prendra la mesure de ce qu'implique politiquement une telle transformation de notre système alimentaire.
Et nous verrons avec humour comment le cinéma envisage l'agriculture du futur dans des mondes parfois apocalyptiques, futuristes ou même absurdes.
Nous lançons donc officiellement le dernier épisode de Plat de Résilience.
Thomas, je te laisse cet honneur.
Plat de Résilience, épisode 11, émission spéciale, c'est parti.
Nous, nos revenus sont dégradés. Là, maintenant, on subit une nouvelle maladie encore sur les bêtes qui nous impacte. On nous a promis en novembre des aides. On ne les a toujours pas.
Ce n'est pas juste que nous, on travaille. Et au moment où on doit vendre à moitié prix. Ou vraiment, on n'arrive pas à vendre au prix juste, au prix de revient même pas.
La difficulté première, je dirais que depuis que je pratique mon métier, c'est-à-dire une douzaine d'années, sont les charges que représentent toutes les charges administratives et réglementaires en fait qui pèsent d'année en année et on les accumule en fait.
On a entendu la voix de plusieurs agriculteurs pendant la crise agricole du début d'année 2024. Ces extraits sont issus de plusieurs reportages dont vous trouverez les sources sur le site de Radio B. On y entend, Thomas, la détresse de la profession. Et dans un épisode dédié, tu nous as expliqué que travailler dans l'agriculture n'était pas chose facile. On travaille beaucoup, 55 heures en moyenne par semaine pour gagner peu. Et même s'il y a une très forte inégalité de revenus au sein de la profession, le salaire médian est à 1300 euros net par mois. Et à la retraite, bah, la pension est aussi faible, moins de 900 euros par mois.
Oui, puis il y a aussi un sentiment très fort de manque de reconnaissance de la part de la société pour tous les services rendus par l'agriculture.
Alors pour terminer le constat, on peut évoquer plusieurs raisons qui expliquent ces conditions de travail et conditions de vie difficiles. Bah déjà, on a des contraintes inhérentes à l'agriculture, des astreintes, notamment l'élevage où l'on doit travailler tous les jours pour s'occuper des animaux. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un travail physique, parfois très pénible, l'agriculture. On a des prix d'achat qui sont souvent trop faibles, un pouvoir de négociation dans les filières qui est très déséquilibré au profit des acteurs de l'aval. Ce sont souvent eux qui fixent les prix et les conditions de vente. Donc, il arrive qu'en agriculture, ce qui est assez unique dans l'économie, on puisse vendre à perte. Et puis l'agriculture est fortement concurrencée au niveau de l'Union européenne, mais aussi à cause de l'importation de certains produits étrangers qui viennent d'autres continents. Ça tire les conditions de travail et les prix vers le bas. Donc avec tout ça, les fermes peuvent être très endettées et difficile de travailler correctement quand on n'a pas la trésorerie pour terminer l'année, acheter des semences, de l'engrais, des aliments pour nos animaux. Et puis d'un autre côté, les agriculteurs gèrent un gros capital, hein, on parle des bâtiments d'élevage, du troupeau, des machines et bien sûr des terres. Mais ce capital ne trouve pas toujours de repreneur. Alors on va passer sa carrière à rembourser son capital, vivre pauvre, avant de se tirer un revenu. Capital qui n'est pas toujours repris derrière, donc mourir, finalement pas si riche que ça.
Mais pas facile de trouver quelqu'un de motivé et capable d'emprunter parfois jusqu'à plusieurs millions d'euros pour acheter une ferme.
On parle beaucoup d'ailleurs des conditions de travail des agriculteurs, on l'a vu dans la presse cette année, autrement dit des chefs d'exploitation. Mais on parle moins de toutes les autres personnes qui travaillent dans le secteur agricole, qui emploient beaucoup de main-d'œuvre.
Ouais, la France compte environ 800 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture au total. Une grosse moitié, pour simplifier, sont des agriculteurs, des exploitants, et l'autre moitié sont des salariés agricoles.
Donc il ne faut pas oublier dans tout ça les aidants, hein, donc les conjoints ou les parents des agriculteurs, qui représentent quand même près de 100 000 personnes, et à qui on peut dire un énorme merci.
Et ouais, même s'ils ne travaillent pas toujours à temps plein sur les fermes, ils apportent une aide immense et parfois vitale à sa survie.
Les agriculteurs sont le groupe socio-professionnel qui compte le plus de seniors, hein, on en entend beaucoup parler, parce que la moitié d'entre eux seront en âge de partir à la retraite d'ici 2030.
Ouais, le nombre d'actifs agricoles ne cesse de chuter depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on arrive à un seuil qu'on peut dire critique. On a besoin de personnes pour nous nourrir, mais aussi pour adapter nos territoires au changement climatique.
Sans oublier que moins d'agriculteurs, c'est un tissu économique et social qui se dégrade dans nos campagnes.
Ouais, quel que soit le projet agricole de notre société, dans tous les cas, c'est difficile d'imaginer qu'on va pouvoir faire tout ça avec moins d'actifs agricoles.
Même avec l'aide de robots, Thomas.
Au-delà des robots, est-ce qu'on veut comme projet de société une agriculture qui ne repose que sur très peu de personnes ? Enfin, peu d'individus auront la charge de nourrir tous les autres. Après, bon voilà, c'est une question de société qu'il faut avoir.
Alors Thomas, comment améliore-t-on l'attractivité des métiers agricoles ?
Bon, dans un premier temps, il faut donner du souffle aux exploitations les plus endettées. Notamment l'élevage. Ça passe par des aides de trésorerie, des différés de paiement, l'accès à des prêts à taux réduit aussi. Il faut leur redonner la possibilité de travailler correctement et d'envisager la fin de l'année avec sérénité.
Autrement dit, éteindre l'incendie.
Et ouais, mais éteindre l'incendie, ça suffit pas. Faut aussi penser court, moyen terme. On parle beaucoup d'une mesure qui n'est pas toute jeune en réalité. L'instauration de prix planchers. Il s'agit de garantir des prix de vente minimum aux agriculteurs. Si le prix est de 500 euros la tonne de blé, impossible de vendre sa production pour moins cher. Cela permettrait de sécuriser le revenu agricole. Ces prix planchers pourraient être définis par les acteurs de la filière, des associations et des consommateurs. Il n'y aurait pas le même prix plancher pour un producteur de blé dans le nord et dans le sud, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Certains envisagent même des prix par taille d'exploitation.
Edgar Pisani, un des ministres de l'agriculture du général de Gaulle, disait d'ailleurs qu'on ne pouvait pas avoir de transition agricole sans prix stabilisé.
Ouais, c'est normal, l'agriculture est par nature sujette aux caprices du climat. Si en plus les prix sont aussi variables que le climat, ça n'aide vraiment pas à ce que les producteurs puissent envisager l'avenir.
Ça va sans aucun doute aller plus loin que l'actuelle loi Egalim, hein, qui a été portée par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Cette loi, elle vise à équilibrer le rapport de force entre agriculteurs et l'aval des filières agroalimentaires. Mais les prix, dans-on ça, est-ce qu'ils vont être plus chers pour les consommateurs ?
Sur 100 euros dépensés au supermarché, déjà, on l'avait déjà vu, mais moins de 10% revient à l'agriculture. Même si les agriculteurs touchent une faible part de la valeur ajoutée créée dans les filières, il risque d'y avoir une augmentation du prix pour les consommateurs.
Sauf si
on veille à ce que le prix ne change pas en contrôlant la marge des distributeurs et surtout des centrales d'achat.
Il y a une proposition de loi d'ailleurs pour instaurer des prix planchers qui a été proposée début avril par le groupe Europe Écologie Les Verts. Donc elle devrait être débattue à l'automne 2024.
Eh bien, affaire à suivre. Bon, toujours pour sécuriser le revenu des agriculteurs, il faut leur garantir des marchés. Même si on est sûr de devoir manger 3 fois par jour, l'agriculture, elle n'est pas toujours sûre de vendre ses récoltes. La Restoco, comme on dit, c'est 7 milliards de repas par an. C'est pas rien. Hein.
Je visitais d'ailleurs des fermes en Isère il n'y a pas longtemps et j'ai rencontré un agriculteur qui faisait partie de la SIC Manger Bio Isère. Alors une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et cette SIC, aujourd'hui, compte 60 producteurs qui se sont structurés dans le département pour pouvoir approvisionner la restauration collective. Il faut dire que la Restoco, hein, comme on dit, elle a des exigences très particulières en termes d'approvisionnement. Tout est très normé. Et après plus de 20 ans d'existence, Manger Bio Isère, c'est plus de 200 clients, 18 salariés et 5 millions de chiffre d'affaires.
C'est un excellent exemple de solution locale pour l'agriculture, l'alimentation et l'emploi.
Mais avant de pouvoir vendre tes produits, il faut déjà que tu puisses t'installer, autrement dit devenir agriculteur.
Exactement, et on a besoin que des personnes s'installent. Déjà, les obstacles à l'installation ne sont pas les mêmes pour ceux qui viennent du milieu agricole, les enfants d'agriculteurs, que pour les autres, les non-issus du milieu agricole, comme par exemple une comptable qui veut se mettre à l'arboriculture. Pour les personnes issues du monde agricole, faciliter la reprise des fermes par des exonérations de taxes est une piste à envisager. On pourrait mettre également à leur disposition un accompagnement technique, administratif et économique pour les conseiller gratuitement les premières années sur la gestion des cultures ou de la ferme.
Ce conseil, d'ailleurs, devrait être disponible pour tous les candidats.
Ah oui, bien sûr. Mais quand on ne connaît pas bien le monde agricole, on est forcé de constater qu'on a besoin d'un accompagnement renforcé. Ce n'est pas facile de comprendre dès le début toutes les contraintes du métier.
Et malheureusement, beaucoup de candidats non issus du monde agricole se cassent les dents et abandonnent leur projet d'installation.
Et oui, donc, pour sécuriser les installations, il faut bien accompagner ces candidats. Les accompagner sur le plan administratif, économique, technique, mais aussi humain.
Donc il faut aussi pouvoir s'essayer avant de se lancer dans l'agriculture.
Ouais, il y a déjà pas mal d'opportunités pour se tester. On peut faire des stages, ce qu'on appelle aussi des espaces tests agricoles, ou tout simplement devenir salarié agricole dans une ferme. Bon, je rentre pas dans les détails, mais il y a plein de choses à faire pour les rendre plus accessibles.
On parlait des astreintes tout à l'heure, qui sont une contrainte énorme à l'installation. Hein. Faut être très passionné pour aller travailler tous les jours, ou quasi tous les jours de l'année dans une ferme. Alors comment on fait pour rendre l'astreinte sexy, Thomas?
Il y a une piste qui est intéressante et qui se développe de plus en plus, c'est de favoriser l'installation collective. Quand on est en collectif, on peut se former mutuellement et se remplacer sur certaines tâches. L'astreinte de s'occuper des animaux tous les jours ne repose plus que sur la même personne. Et ça permet aussi de ne pas avoir à payer un remplacement pour partir en vacances. On peut aussi alléger le coût de ce remplacement agricole pour tout le monde. Cela faciliterait la prise de vacances et améliorerait l'attractivité du métier. Mais le collectif a d'autres avantages.
Lesquels ?
On prend une ferme de 300 hectares et au lieu d'installer à nouveau deux céréaliers dessus, on installe 4, 5, voire 6 personnes. On peut maintenir les céréales comme une production principale de la ferme, mais on peut installer deux maraîchers en plus. 3 hectares pour faire pousser des légumes sur 300, ça ne va pas changer grand-chose. On peut aussi du coup valoriser les terres, les moins fertiles, avec un troupeau de ruminants itinérants ou un peu d'arboriculture. Ça fait du capital aussi pour diversifier les revenus en cas d'année difficile. Et puis le fumier des animaux pour fertiliser aussi les céréales, la paille des céréales pourra servir aux animaux ou au maraîchage. En gros, on crée des synergies et tout ça en circuit court.
Donc c'est une mesure qui permet à la fois de diversifier les productions dans les zones les plus spécialisées, augmenter la résilience du territoire, créer de l'emploi et diminuer l'astreinte.
Bah ouais, reste plus qu'à bien s'entendre avec ses collègues. Parce que ce soit des amis ou pas au départ, un projet collectif, enfin se lancer dedans, ça reste quand même une sacrée expérience sociale, parfois compliquée.
Mais il y a d'autres formes d'associations qui sont possibles, pas forcément obligées de tous être sur la même ferme. On peut avoir des structures différentes, complémentaires et qui s'entraident, achètent du matériel en commun, enfin tout est possible.
Tout est possible.
Et le foncier agricole dans tout ça, c'est un sujet qui attise beaucoup les tensions.
Plus que le foncier, il faut faciliter la reprise du capital agricole. Permettre aux candidats à l'installation d'acheter ou utiliser une ferme. Donc des terres, oui, mais aussi des machines, des bâtiments et des animaux. Et tout ça coûte très cher. Certains proposent de créer des offices fonciers. Ce sont des structures qui sont propriétaires du capital agricole et qui le mettent à disposition d'exploitants.
Comme les associations Terre de Liens ou La Fève ?
Ouais, c'est ça, dans l'idée. Mais un céréalier pourra acheter ses bâtiments, par exemple, mais louer ses terres à un prix moins cher que le marché pour travailler.
Mais ils le font déjà, ça s'appelle du fermage.
Ben non, parce que l'office foncier te permet d'utiliser des terres agricoles ou des bâtiments moins chers et pour toute sa carrière. Tu peux d'ailleurs les transmettre à tes enfants si tu veux. Et surtout, tu n'as pas à rémunérer ton capital, donc tes bénéfices servent davantage à te rémunérer toi.
Donc cela permet aussi d'éviter que des puissances étrangères achètent des fermes françaises.
Oui, sauf si ces offices fonciers sont étrangers.
Évidemment.
Mais l'idée, c'est qu'ils soient gérés par la société civile, le monde agricole ou les pouvoirs publics pour garder la main dessus.
Nous souhaitons ce matin vous présenter cette nouvelle étape. Elle commence par un message clair. Avec deux mots d'ordre pour notre agriculture, produire et protéger. Pourquoi ? Parce que nous voulons être souverains. Souverain pour cultiver, souverain pour récolter, souverain pour nous alimenter.
Bon, on a entendu le Premier ministre Gabriel Attal là, qui le 1er février dernier, lors d'une conférence de presse, annonçait la direction qu'il voulait pour l'agriculture. Pour rappel, on est en plein mouvement des agriculteurs et plusieurs autoroutes sont bloquées, dont certaines qui mènent à Paris. Il dit deux mots d'ordre pour notre agriculture. Produire et protéger. Nous voulons être souverains. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire dans les médias. Nous, on parle beaucoup de résilience alimentaire dans notre podcast. Tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est et si c'est les mêmes choses, Rémi ?
Ben, je suis souverain quand je peux décider de comment j'assure une sécurité alimentaire à ma population. Donc si la France est souveraine, elle décide par elle-même de comment elle nourrit sa population. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir se nourrir sans dépendre trop des autres. La résilience, c'est la même chose. Mais en plus de ne pas dépendre trop des autres, c'est être capable de se nourrir quoi qu'il arrive. Même s'il y a un Covid 2.0, des canicules, des incendies, une guerre, une pluie de météorites, que sais-je, je dois être capable de nourrir ma population. Et pour ça, il faut que mon système alimentaire soit solide et pas fragile. C'est ça, la résilience. Être capable d'absorber des chocs, être adapté au changement climatique et ne pas le subir.
Mais comment on améliore la souveraineté alimentaire de l'Europe, de la France et aussi des pays du Sud ?
Bah, être souverain, c'est moins dépendre des importations étrangères. On en a parlé dans l'épisode 9. Ça revient à produire en Europe ce qu'on peut éviter d'importer. Mais il faut en même temps protéger le marché européen de la concurrence des importations. On ne peut pas dans le même temps dire à l'agriculture « produis plus de pommes et de soja » quand on continue d'en importer de l'autre bout du monde. On ne peut pas vouloir protéger nos éleveurs et continuer à importer en France 20% de la viande bovine que l'on mange, alors que nous produisons assez de viande bovine pour nous nourrir.
Et ça, c'est du protectionnisme.
C'est ça. C'est veiller à ce que ce qui rentre en Europe respecte nos exigences. On parle d'ailleurs de clause miroir. Ça veut dire n'autoriser l'entrée de produits en Europe que s'ils respectent nos exigences. Exigences sanitaires, exigences éthique, le respect du bien-être animal, nos exigences sociales, qu'on n'emploie pas des enfants par exemple, ou des exigences environnementales, qu'on n'utilise pas des pesticides interdits chez nous.
Ouais, on doit donc vérifier finalement toutes les conditions de production de ce qu'on va importer.
Oui, c'est ça. Ça peut être un gros boulot hein, d'ailleurs d'aller contrôler tout ça. Mais on sait le faire. Les producteurs et les acteurs des filières bio, hein, qu'ils soient en France, en Europe ou à l'étranger, sont audités chaque année par des organismes certificateurs. On vient chez eux contrôler ce qu'ils font. La douane européenne contrôle déjà beaucoup de choses. Hein, y a ça en plus. Et on a eu l'exemple récent de l'Europe qui est allée contrôler les élevages de viande canadiens qui devait nous exporter de très importantes quantités de viande. Rappelez-vous, c'était dans le cadre de l'accord de libre-échange qu'on a signé avec le Canada, le fameux CETA.
Oui, et dans les faits, ça n'a pas marché parce que les éleveurs canadiens utilisaient des hormones interdites en Europe.
Le Canada a donc beaucoup moins exporté vers l'Europe que prévu.
Ça a permis d'éviter de concurrencer encore plus l'élevage européen.
Ben on peut aussi augmenter les droits de douane sur certains produits pour limiter leur entrée sur le territoire. Je pense par exemple à la viande de mouton qui vient beaucoup de Nouvelle-Zélande et qui concurrence beaucoup les élevages français.
En même temps, la Nouvelle-Zélande, c'est le pays du mouton.
Ça, c'est sûr. Mais les élevages, là-bas, ont en moyenne 10 fois plus de bêtes que chez nous. Donc même s'il leur faut traverser l'océan Pacifique et l'océan Atlantique pour nous en vendre, leur coût de revient reste moins cher.
En fait, les droits de douane permettent de piloter finement ce que tu veux faire rentrer sur ton territoire.
Ben c'est ce que font les États-Unis quand ils taxent à plus de 100% l'importation des voitures électriques chinoises. Ils protègent leur marché de la concurrence étrangère, ce qui permet pour eux de favoriser la production et la vente de voitures électriques américaines.
Mais pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en Europe pour protéger notre agriculture et augmenter notre souveraineté ?
Bah ça nous fait aussi gagner en résilience tout ça, hein, parce que moins on dépend des importations, moins on a de risques de pénurie s'il y a un événement comme la guerre qui nous empêcherait d'importer.
Il faut gagner en autonomie alimentaire. Mais on ne pourra pas le faire pour tout.
On ne produira jamais assez de café pour nos besoins. Et c'est toujours bien d'importer un peu pour commercer avec les autres pays et bien s'entendre avec eux. Donc oui, continuer à importer un peu de fromage italien alors qu'on est le pays du fromage.
Ouais, par contre, c'est pas logique d'importer du fromage pour nos plats préparés alors qu'on produit beaucoup de fromage.
Bah de même que c'est pas très malin de devoir envoyer notre farine de blé dur en Italie pour qu'ils la transforment à notre place en pâte, parce que en France, on n'a plus les capacités industrielles de fabriquer nos pâtes.
Ouais, ça fait mettre des camions sur les routes et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour pas grand-chose.
Il faut aussi revoir les accords de libre-échange qui mettent sur le même plan l'agriculture avec d'autres secteurs de l'économie. Ces accords facilitent l'importation de produits étrangers qui concurrencent parfois sévèrement notre agriculture.
Dans le même temps, ils peuvent nous permettre de plus exporter certains de nos produits, comme le vin.
Ah oui, c'est ça, ça nous permet d'en exporter beaucoup. En plus d'être un pays de vaches et de fromages, la France est un pays de vin. Alors, évidemment, comme l'Italie et l'Espagne. Donc tous ensemble, en Europe, même si on boit beaucoup, on n'arrive pas à écouler tout ce qu'on produit en vin. C'est pour ça qu'on exporte près de un tiers de ce que les viticulteurs européens produisent, et surtout à destination des États-Unis.
Ouais, donc j'imagine que quand Donald Trump augmente les droits de douane sur le vin français, ça fait mal à nos vignerons.
On doit continuer à exporter du vin, c'est notre culture, notre savoir-faire. Par contre, c'est risqué pour une région viticole comme la Provence de surtout dépendre de ses exportations à l'étranger pour vivre de son métier. Au moindre pépin politique ou commercial, sans faire de jeu de mots, ça met les fermes en grande difficulté.
Avec tout ça, en plus, on protège bien notre marché européen, mais les fraises françaises, elles se font surtout concurrencer par des fraises espagnoles. L'Espagne, c'est en Europe.
C'est sûr que c'est plus compliqué de limiter la concurrence au sein de l'Europe, parce qu'il n'y a pas de douane, et c'est ce qui nous unit depuis plus de 60 ans. Mais on peut envisager certaines choses, comme baisser la TVA sur les produits français très concurrencés. D'autres suggèrent même de revoir les règles commerciales européennes, ou d'instaurer des prix planchers dans tous les pays membres. Mais je suis d'accord Thomas, c'est plus compliqué la lutte contre la concurrence dans l'Europe qu'à l'extérieur.
Et qu'est-ce qu'on fait pour nos exportations? Parce qu'elles sont nécessaires quand on exporte vers des pays qui structurellement ne peuvent pas être autonomes, comme l'Égypte, le Maroc ou l'Algérie. Mais elles peuvent être destructrices aussi. Nos produits peuvent concurrencer les agriculteurs des pays du Sud qui ont des difficultés à vivre de leur métier, ce qui peut les mettre encore plus dans la précarité alimentaire.
Ah, c'est sûr, on joue pas du tout à armes égales. C'est exactement ce qui se passe quand nous, on est concurrencé par d'autres pays. On peut concurrencer l'agriculture des pays dans lesquels on exporte. Sauf que ça peut causer d'énormes dégâts sociaux.
Ouais, en même temps, quand t'es producteur de riz en Camargue, tu reçois des subventions et tu es jusqu'à 100 fois plus productif qu'un agriculteur qui produit du riz au Sénégal, par exemple.
C'est pour ça que taxer les produits européens de première nécessité qui sont exportés vers des pays où ils peuvent faire des dégâts, c'est quelque chose dont il faut réfléchir. Par contre, on ne va pas taxer l'exportation de blé au Maroc ou en Algérie, parce qu'ils en ont absolument besoin, ils sont structurellement déficitaires. Ce sera du cas par cas, produit par produit, pays par pays.
À Paris, comme dans tous les restos du cœur de France, les bénévoles ne chôment pas.
Il y a de plus en plus de monde et c'est très dense. On n'arrête pas. Une fois que ça a commencé, il faut recharger en permanence, donc on n'arrête pas.
La hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie a contraint de plus en plus de Français à solliciter les associations.
Par rapport à l'année dernière, on est à plus 37%. Tout ça couplé avec l'inflation, il y a un effet de cisaille pour les restos qui font que c'est difficile.
L'association, fondée il y a près de 40 ans par Coluche, appelle à l'aide. Victime de la hausse de ses coûts de fonctionnement, elle risque de mettre la clé sous la porte. Rien que pour finir l'année 2023, il lui manque 35 millions d'euros.
Dans ce reportage du magazine 28 minutes d'Arte, diffusé le 6 septembre dernier, on comprend que les Restos du Cœur sont en grande difficulté. Avec l'inflation, le nombre de demandeurs augmente. À eux seuls, les Restos du Cœur ont distribué près de 170 millions de repas en 2023.
Ah, c'est énorme. Et l'aide alimentaire concerne, rien qu'en France, 7 millions de personnes. Toutes ces personnes reçoivent de l'aide, alors par des chèques alimentaires, grâce à des centres d'action sociale ou encore des épiceries sociales et solidaires.
Ouais, c'est bien beau de vouloir transformer notre modèle agricole, Rémi, et alimentaire, mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès.
Ah mais t'as tout à fait raison, c'est même plus que ça, Thomas. La demande alimentaire structure l'offre. Donc ce qu'achètent les gens, ce que consomment les gens, influence ce que notre agriculture produit. Donc faire évoluer la demande alimentaire, c'est autant important pour sortir les personnes de l'aide alimentaire que pour réussir la transformation du modèle agricole.
Un sondage Ipsos de 2021 a montré que 37% des Français déclarent se restreindre sur la qualité et 27% sur la quantité de ce qu'ils mangent. Ça concerne énormément de monde.
C'est bien pour ça qu'il faut s'occuper à la fois de notre agriculture et de notre alimentation. Regardez le modèle agricole dans son ensemble.
Ben oui, mais alors comment améliorer l'accessibilité alimentaire?
Alors lire l'avenir, c'est pas facile, mais on est sûr que le prix de l'énergie fossile va augmenter. On parle donc du pétrole, du gaz et du charbon. Et à votre avis, comment va évoluer le prix de la nourriture si l'énergie coûte plus cher? Sans surprise,
il augmentera.
C'est certain, il augmentera.
Sauf si notre agriculture n'est pas dépendante des énergies fossiles.
C'est pour ça qu'il nous faut re-territorialiser notre alimentation et diminuer notre consommation d'énergie. Je vous renvoie donc aux épisodes 9 et 10 qui détaillent le sujet.
Ouais, mais je comprends l'idée, mais sur le court terme, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, dès demain, quoi.
Alors, on peut baisser, voire supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, hein, les produits agricoles, enfin alimentaires, et l'augmenter sur les aliments qui sont mauvais pour la santé, comme les aliments ultra transformés ou les aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés. Vous connaissez la musique. Ce qui est bon et vital sera plus accessible, mais dans le même temps, ce qui est plus mauvais, l'est moins. Donc, l'un finance l'autre.
Ouais, d'autant qu'un rapport sénatorial déclarait que la mauvaise alimentation était le premier risque de mauvaise santé en France.
Le contrôle des marges des distributeurs et des centrales d'achat permettrait d'ailleurs d'éviter des hausses de prix importantes. L'association UFC Que Choisir a d'ailleurs épinglé en 2017 la grande distribution qui augmentait anormalement sa marge sur les fruits et légumes bio. Le prix des tomates bio, Thomas, tiens-toi bien, coûtait alors le double que les tomates qui étaient non bio. Donc cette différence, elle s'expliquait autant par le surcoût de l'agriculture biologique, hein, qui de manière structurelle coûte plus cher, mais autant que par les marges importantes des enseignes. Donc contrôler les marges des filières demande de la transparence de la part de toute la chaîne de valeur.
Et j'ai aussi entendu parler de la SSA, la Sécurité sociale de l'alimentation. Ça ne pourrait pas aider?
Alors c'est une proposition intéressante. Concrètement, chaque citoyen recevrait sur sa carte vitale alimentaire un budget pour acheter de la nourriture tous les mois. Par contre, il ne pourrait dépenser cet argent que pour acheter certains produits dits conventionnés.
Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire que si on décide que tous les produits de base sont conventionnés demain, tout le monde pourra aller en acheter avec sa carte vitale alimentaire. Par contre, un plat préparé ultra transformé, qui ne sera pas conventionné, il ne pourra pas être acheté avec cette carte.
Mais tu peux aller plus loin et ne conventionner que des produits locaux, par exemple, pour soutenir l'agriculture locale.
Mais tout est envisageable. Dans l'idée, il y aurait des décisions nationales et locales, par des collectifs, voilà, des organisations, pour savoir ce qu'on conventionnerait.
Ok, intéressant. Et ça coûterait combien?
Si chacun reçoit, admettons, 150 euros par mois, en comptant des frais de fonctionnement de la SSA, ça coûterait environ 130 milliards d'euros par an.
Ah oui, ok. Mais comment trouver une telle somme?
Alors, le collectif qui porte cette initiative suggère plusieurs choses, hein, comme par exemple une taxe sur les produits qui coûtent cher à la société, on vient d'en parler, donc comme les aliments ultra transformés, ou alors une cotisation indexée sur le revenu des bénéficiaires. Alors, comme toutes les propositions qu'on a évoquées, Thomas, la SSA demande d'être débattue démocratiquement pour voir dans quelle mesure elle peut, oui ou non, exister.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a évoqué des choses en 11 épisodes. Hein.
On n'en manque pas des propositions, ça c'est sûr.
Je me demande même quand même à quoi ressemblerait notre agriculture si on mettait tout ça en place.
Tu veux dire à quoi ressemblerait l'agriculture et l'alimentation dans le futur?
Ouais.
Mais c'est pas facile comme question. C'est pas le truc qu'on représente le plus au cinéma. Tiens, par exemple, si tu vas dans la rue un vendredi matin et que tu demandes au premier pécor que tu croises de te citer un film qui parle d'agriculture ou de bouffe, il va te parler de quoi? Il va te parler de l'aile ou la cuisse. Alors pour les auditrices et auditeurs qui ont été élevés dans une cave, hein, sans télé et sans cinéma, bon, pas de bol, L'aile ou la cuisse, c'est un film bien franchouillard. On a Louis de Funès et Coluche qui sont de véritables Power Rangers du terroir. Et ils sont en guerre contre l'industrie de l'agroalimentaire qui fabrique maintenant de la bouffe 100% artificielle. Nouveauté, c'est super marketing. Fini la gastronomie française, fini le poulet label rouge qui court dans les prairies. Maintenant, on fabrique des poulets dans des moules à gaufres. Après tout, hein, c'est peut-être la solution. Le premier poulet sans hormones, sans pesticides et même sans poulet. Quand même, tuer à ce point l'agriculture, c'est péché, c'est un crime de lèse-majesté. C'est comme interdire le beurre salé en Bretagne, ça déclencherait une guerre civile. Le lendemain, vous auriez la moitié des Bretons dans les rues et des barricades sur toutes les routes. À côté, 1789, ce serait Martine à la plage. Hein. Bon, ok. L'aile ou la cuisse a été écrit en 1976. Ça date un peu, faut passer à autre chose. Mais un an plus tard, en 1977, le monde va se prendre dans la gueule une de ses plus grandes claques cinématographiques avec la sortie de Star Wars. Ça y est, on voyage à la vitesse de la lumière, il y a des bouddhistes ninjas armés de sabres laser qui font bouger des trucs à distance, le grand kiff. on a des robots qui savent tout faire, il y a même des stations spatiales de la taille de mini-planètes qui en dégomment d'autres, c'est complètement dingue, et ils boivent du lait bleu dans Star Wars, du lait bleu, c'est carrément révolutionnaire. Non, le seul truc qui ne change pas avec aujourd'hui, c'est que dans Star Wars, bah, l'agriculture, ça paye pas bien. C'est vrai, Luke Skywalker, le mec tout gentil qui vit dans un désert, mais qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Eh bien, il est fermier. Il fait pousser des légumes dans des serres souterraines. C'est l'élu de la galaxie, et il ne rêve qu'à une chose, de se barrer de sa planète pourrave et d'aller piloter des vaisseaux plutôt que faire pousser des choux-cakes dans un souterrain. Et puis, il a de la chance, le petit gars, parce qu'un beau jour, il y a un robot, une princesse et un vieux sage qui lui tombent dessus. Et il finit par être le sauveur de la galaxie. C'est ce qui s'appelle de l'ascension sociale. Alors, il faudrait en faire une adaptation plus moderne de Star Wars, un truc un peu plus réaliste. Je sais pas, moi, un éleveur de brebis qui tombe sur le dernier iPhone, et là, boum, sa vie, elle change. Il descend de sa montagne, il se crée un compte Instagram, il devient influenceur, et il finit, pas élu de la galaxie, mais bon, maire du village du coin, hein. Voilà, un truc un petit peu plus réaliste. Mais il y a un autre film qui parle d'agriculture dans le futur. C'est Interstellar. Alors, il est plus récent, il est sorti en 2014... D'ailleurs, Louis de Funès aurait eu 100 ans en 2014. Et alors, je sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression qu'il a loupé un truc, Christopher Nolan, dans son film. Alors, petit rappel des faits, on est en 2067, la Terre est devenue quasi inhabitable, il y a des tempêtes de sable, tout le monde est malade, tout le monde est dépressif, il y a une crise alimentaire générale, et le seul truc qu'ils font pousser, c'est du maïs. De la monoculture de maïs à perte de vue. Ouais, ouais, du maïs. Alors attention, hein, ils ont des drones, des moissonneuses batteuses automatiques, hein, quand même. Hein. C'est Interstellar. Mais malgré que le monde soit à feu et à sang, ils trouvent pas mieux à faire que de la monoculture de maïs. Ben, y a pas d'agroécologie, là. Hein. C'est pas résilient du tout, ça. Hein. Puis merci bien, mais bouffer que de la polenta et du popcorn, hein, même si c'est sucré et des fois salé, ça va 5 minutes. Non, je pense que ce qui va pas dans le film... c'est que les gens, bah, ils ont pas écouté plat de résilience. Ils sont allés dans la mauvaise direction. Ils se sont dit, bah, il y a un changement climatique, on va faire de la monoculture de maïs. Hein, ça veut dire, Thomas, que on est peut-être en train de sauver l'humanité avec ce podcast. Hein. Rien que ça, hein, pour s'en rendre compte. Hein. Mais il y a un truc marrant avec Interstellar. Le héros principal, il est joué par Matthew McConaughey. Et ben, comme lui, Luke Skywalker... au début du film, il est quoi ? Ben, il est fermier. Et comme Luke, il s'ennuie dans sa vie pourrave. Et comme Luke, il va devenir le sauveur de l'humanité. Et c'est quand même peut-être ça qui va nous sortir de la mouise. Hein. C'est peut-être comme ça qu'on va remettre des gens dans l'agriculture. En s'inspirant de modèles de science-fiction. Faut aller demander à France Travail maintenant de se sortir les doigts et de coller sur tous les murs des lycées des slogans pour orienter les jeunes vers l'agriculture. On a besoin d'agriculteurs, après tout. Ils pourraient, je sais pas, moi, avoir des slogans... un peu marquant, devenez fermier pour sauver l'humanité, élevez des brebis pour terrasser le côté obscur, ou Luke Skywalker a été maraîcher avant d'être un héros, bah faites comme lui, choisissez l'agriculture. Enfin, un truc qui marque. Ouais, non mais je crois que Thomas, je vais m'arrêter là avec les films. On aurait aussi pu parler de Dune, hein, le blockbuster de Denis Villeneuve sorti en 2021, où les Fremen qui vivent dans un désert se nourrissent de... Bah de quoi, hein, d'ailleurs. Je vous le demande, de quoi justement. On n'a pas vu une seule plante dans les deux opus du film. Et pourtant, ils courent les gugus, hein, venez pas me dire qu'ils n'en brûlent pas des calories, hein. À croire qu'ils passent leur temps à sucer des cailloux et à boire leur transpi, hein. Non, et puis à côté, les séries, c'est pas mieux non plus. Regardez Walking Dead. LA série post-apocalyptique américaine par excellence. On met en scène à l'écran un petit groupe de loustiques dans un monde de zombies. Oulala, ça fait peur. Ils passent leur temps à se planquer et à se taper dessus. Donc, jusque-là, hein, tout va bien, hein, rien d'original. Mais, les seules fois où on les voit faire pousser des plantes, ce qui est légèrement important dans un monde où il n'y a plus d'agriculture, bah, ils les font pousser dans quoi, ces plantes ? Dans des jardinières, ou alors sur un tout petit lopin de terre où ils sont 150 dedans à jardiner. Je suis pas survivaliste, peut-être vous non plus, mais si demain on doit se nourrir dans un monde post-apocalyptique, je ferais peut-être pas pousser ma bouffe dans des pots de fleurs. Non, c'est pas Jojo tout ça, hein. Le cinéma et l'agriculture du futur, je crois que ça fait deux. Hein. Je crois que Thomas, il faut qu'on se reconvertisse dans le cinéma de science-fiction.
Tu me flattes.
Il faut qu'on mette nous-mêmes à l'écran l'agriculture et l'alimentation du futur.
je sais pas, quelque chose de saisissant, mais quelque chose de réaliste, tu vois. Plein d'agriculteurs qui gagnent leur vie, des écosystèmes adaptés au changement climatique, de la bouffe de bonne qualité accessible à tout le monde. Ouais, ouais, non, c'est vrai qu'on se ferait peut-être un peu chier. Bon, à la limite, on n'a qu'à rajouter 2-3 trucs innovants, hein, ça passera mieux. Un vaisseau tracteur, de la bière fluo, et puis des pistolets laser pour désherber les carottes, hein. Voilà, ça c'est bien. Non, mais elle va être bien, l'agriculture demain. Elle va être très bien, même. J'y crois, Thomas. J'y crois.
On a évoqué plein de solutions envisageables pour éviter que demain, notre agriculture ne ressemble à celle d'Interstellar où on mangera tous que du maïs.
Horrible.
Mais comment concrètement les mettons en place ?
Alors la transformation qu'il faut opérer est très importante. Elle est du même ordre que celle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements de la 4e puis de la 5e République ont accompagné jusque dans les années 70 la modernisation de notre agriculture. Le général de Gaulle, pour ne citer que lui, a d'ailleurs choisi de mettre en place une série de lois d'orientation agricole à partir de 1961 pour améliorer le revenu agricole, structurer les interprofessions, agrandir les fermes et réduire l'écart de vie entre la population agricole et le reste de la société.
Les installations agricoles étaient en partie détruites après la guerre.
Et c'est le plan Marshall qui a permis de financer une grande partie de cette transformation.
Marshall, c'est quoi le plan Marshall déjà ?
Alors le plan Marshall, c'est un programme de dons et de prêts américains aux pays européens pour qu'ils puissent financer chez eux la reconstruction des villes et des installations bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est le général américain George Marshall qui propose ce plan au président américain de l'époque, Harry Truman.
Ça a permis de financer la modernisation des campagnes européennes, comme l'achat de tracteurs américains qu'on a vu arriver en France, justement, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et les Européens ont bénéficié au total de l'équivalent de 173 milliards de dollars en dons et en prêts américains.
On vous propose justement d'écouter un court extrait de reportage sur ce fameux plan Marshall.
Pendant que les volcans se rallument et que les coutumes reprennent vie, le vieux monde fait chaque jour un pas de plus sur la route de son relèvement. À Bordeaux, en compagnie de M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis, deux ministres français, M. Pinault et Coudet du Foresto, sont venus accueillir le premier cargo chargé de fournitures envoyées à la France au titre du plan Marshall. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelque 250 milliards de francs qui arriveront sous forme de blé permettant la soudure, de matières premières et d'outillage.
Ça a été une politique d'envergure, hein. Mais ça n'a pas tout fait, Rémi, quand même.
Ah bien sûr que non, mais ça montre l'ampleur d'une transformation économique. Rendre notre système alimentaire résilient coûtera sûrement moins cher que le plan Marshall, mais coûtera quand même beaucoup d'argent.
Ouais, ça nous coûtera plus cher que de ne rien faire, ça c'est sûr.
Ça c'est certain, et sans volonté politique, on n'ira pas loin.
Mais comment on réalise ce plan Marshall de la résilience alimentaire ?
En quatre temps, Thomas, tiens-toi prêt. Acte 1... L'urgence, on gère l'urgence. Il faut qu'on améliore la trésorerie des exploitations les plus en difficulté. Protéger notre marché et améliorer l'attractivité des métiers agricoles. Donc on met en place du protectionnisme pour favoriser des débouchés pour l'agroécologie, des prix planchers et on diminue la concurrence étrangère. Acte 2, on met en place un vaste plan alimentaire pour rendre plus accessible la nourriture à la population et sortir une partie de la population du besoin de recourir à cette fameuse aide alimentaire. Mais ce plan alimentaire, il doit aussi transformer notre manière de consommer. Dit autrement, faire évoluer ce que nous mangeons. L'objectif, c'est bien d'inciter à consommer français et européen, consommer moins de produits dangereux pour la santé et à consommer moins de produits animaux. Donc notamment le porc et la volaille qui concurrencent beaucoup l'homme, on en a déjà parlé. Mais si on fait évoluer la demande, on fait évoluer l'offre. Et c'est bien ça qui est important. Faire évoluer la demande alimentaire avant l'offre, c'est transformer en douceur les filières et les marchés agricoles. Ensuite, on ne s'arrête pas là, on continue. Acte 3, on s'occupe de l'élevage. On augmente l'autonomie de l'élevage pour qu'il concurrence moins l'humain. Pour ça, on transforme l'élevage pour qu'il soit plus autonome et mieux réparti sur le territoire. Si on nourrit moins les animaux avec des terres agricoles qui peuvent servir à nourrir les humains, on gagne des surfaces qui serviront à nous nourrir en se préparant à des pertes de rendement possibles dues au changement climatique. Et acte 4, Le final, on transforme la production végétale pour qu'elle soit plus adaptée au changement climatique, notamment avec un vaste programme de diffusion de l'agroécologie et de diversification des cultures dans nos territoires.
Ouais, avec tout ça, l'objectif, c'est de recréer une relation de confiance entre l'agriculture et la société.
Ah ben, on refait société autour de l'agriculture et de l'alimentation avec comme ambition commune de continuer à se nourrir dignement et en permettant aux métiers agricoles d'en vivre correctement.
Jean Monnet disait que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité. Et il ne voit la nécessité que dans la crise.
Eh bien, prouvons-lui le contraire, Thomas. Prenons les devants politiques pour opérer cette transformation vitale, pour se réconcilier avec notre agriculture et notre alimentation au plus vite.
Sur ces belles paroles, il est temps pour nous de vous quitter.
Alors, évidemment, tous nos épisodes sont disponibles, vous le savez, sur le site de Radio B en replay, mais également sur Spotify.
Vous trouverez toutes les sources que nous avons utilisées pour la rédaction des épisodes dans les descriptions.
Nous remercions chaleureusement l'équipe de Radio B et surtout Jimmy pour son aide précieuse dans la réalisation de nos podcasts. On vous jure, ça n'a pas été facile. À bientôt.
C'était Thomas Grostet
et Rémi Pascal sur Radio B.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostet et Rémi Pascal sur Radio B.